Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire d'aujourd'hui va vous secouer, c'est sûr. Car c'est l'histoire de la maman d'un enfant très lourdement handicapé qui, lorsqu'il a 3 ans, décide de mettre fin à ses jours. Et cette maman, c'est vous, Anne Ratier. Bonjour.
Bonjour.
Vous racontez votre douloureux parcours dans un livre qui paraît chez City. J'ai offert la mort à mon fils. C'est une histoire qui peut choquer, qui peut heurter des convictions, j'en suis parfaitement conscient, et vous aussi. Mais je pense que pour se forger une opinion, il faut écouter votre histoire d'un bout à l'autre. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. J'ai écrit votre histoire sans vous juger, en essayant d'être le plus fidèle possible à vos mots, et on en parle après. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Mon histoire commence bien. Un jour de grand soleil, le jour de la Toussaint 1984. Je suis enceinte de mon premier enfant. Je ressens les premières contractions dans l'après-midi. Et nous partons donc pour la clinique. Nous y arrivons joyeux, impatients. Le médecin qui me suit me fait passer une échographie. Maman, ça se présente bien. Je vais vous laisser dans les mains de la sage-femme de garde. Et à plus tard. Eh oui, on est un jour férié. Et les heures passent, interminables. Et ma douleur augmente. Et assez vite, elle laisse place à de l'angoisse. Mes contractions me déchirent le dos. Mais le bébé ne descend pas. Mon mari perd patience, il demande de l'aide. La sage-femme vient. Mais non, enfin c'est rien. Ne vous inquiétez pas, madame. Je me dis que je suis trop douillette. Et donc je supporte. Pour me donner du courage, je pense à mon bébé qui sera bientôt contre moi. À un moment, je suis au bord de l'évanouissement. Heures, 23 heures, le temps passe et rien ne se passe. Parfois le téléphone sonne, c'est le médecin, il demande si tout va bien.
Oui, oui, docteur. Oui, tout va bien. Pas de souci.
Elle a peur de le déranger, de gâcher sa Toussaint en famille. Je lui dis,
pourquoi est-ce que vous mentez? Vous voyez bien que ça va pas.
Non, elle ne voit pas, elle n'entend pas. Elle secoue les épaules, elle me jette un coup d'œil sévère. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de frapper. J'ai envie de lui faire mal. Minuit, 2 heures, 3 heures, mon état empire. Mes mains déchirent les draps, et elle?
C'est normal, c'est votre premier enfant, vous verrez. Plus tard, vous n'y penserez plus.
4 heures. 5 heures, 6 heures, 7 heures, ça dure comme ça jusqu'au petit matin. Et vers 8 heures, le médecin arrive pour constater que le cœur du bébé ne bat plus. Je l'entends dire
« Mais enfin, il fallait me prévenir !»
Et là, une panique s'empare de l'équipe. Il faut faire une césarienne, en urgence. Je n'ai plus de corps. Je l'ai senti, moi, la souffrance de mon bébé. J'ai senti l'instant précis où il a cessé de se battre pour la vie. J'entends des bribes de phrases.
Ses ongles sont bleus. Elle avale le tuyau à oxygène.
De l'autre côté de la vitre,
Le médecin va voir mon mari. Bon, vous avez un petit garçon qui présente un problème respiratoire. Assez courant chez les enfants qui naissent par césarienne, hein, c'est sans gravité. Vous êtes d'accord pour qu'on le fasse transporter à l'hôpital ? Hein ? Il nécessite des soins. Mon mari lui fait confiance. Il accepte. Il signe le papier. Et à ce moment-là, il le voit. Notre bébé, il le voit. Un petit visage encadré d'une impressionnante touffe de cheveux noirs. Le reste de son corps enveloppé dans une sorte de couverture en aluminium. Plus tard, il me dira que ça lui a fait un choc. C'était pas un regard de bébé, tu vois. C'était comme le regard de quelqu'un qui a déjà vécu. C'était un regard d'adulte. Moi, je suis toujours inconsciente. Je ne sais pas que Frédéric, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler, que Frédéric a eu des convulsions, qu'il n'y avait pas de matériel sur place. Et que c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé en soins intensifs à l'hôpital et pas dans un grand hôpital, dans un hôpital interdépartemental. Je ne sais pas dans quel état mon enfant, mon premier enfant, va sortir de cet hôpital. Quand je reprends connaissance, pour m'éviter tout contact avec les autres mamans, celles qui ont leur petit ange dans les bras, on m'installe en chirurgie. Et mon mari m'explique. Chérie, ils m'ont dit que c'était sans gravité, que c'était courant après une césarienne. Mais moi, j'y crois pas. Il est mort. Et on attend que j'aille mieux pour me le dire, mais il est mort. Et s'il est vivant, je veux le voir. Je veux le tenir dans mes bras. Alors quand je me retrouve toute seule, je me hisse péniblement au bord du lit. Je prends une inspiration, je me mets debout, j'ai mal, j'ai chaud, j'ai froid, je vais vers la salle de bain, le sol tangue, et je m'effondre. Madame Ratier, enfin, vous n'êtes pas sérieuse, vous devez rester dans votre lit. Je veux le voir, je veux sortir, et donc, je recommence. Je me relève, je me cramponne au dossier d'une chaise. Quand ça tourne, je m'assois dessus. Je respire et je recommence. Je m'entraîne et dès que je me sens prête, je range mes affaires et j'exige qu'on me laisse sortir pour aller voir mon bébé. Mais le médecin refuse.
Ça n'est pas sérieux. Après une césarienne, il vous faut du repos.
Je ne suis pas votre prisonnière. Et vos inquiétudes arrivent un peu tard ? Non ? C'était avant qu'il fallait s'inquiéter. Vous pensez pas ? Est-ce qu'il peut me rassurer sur l'avenir de mon fils ? Est-ce qu'il a subi des dommages irréversibles ? Parce que moi, c'est ça que je redoute. Lui, il a fait signer à mon mari une autorisation de soins. Son existence de médecin respecté se poursuivra sans encombre. Mais nous, qu'est-ce qui va nous arriver à nous ? Et puis je quitte la clinique avec mon mari. Il va s'en sortir.
T'inquiète pas. Ce sera peut-être un peu long, mais il y arrivera.
Je n'en crois pas un mot. On prend la direction de l'hôpital et nous voilà au service des soins intensifs pour nourrissons. On commence par nous mettre dans un sas de désinfection. On enfile une blouse, un bonnet, des surchaussures. Et on pénètre dans le sein des seins. Et je le vois, dans une couveuse, mon fils, relié par des tuyaux à des appareils énormes, effrayants. Et il me regarde. Je l'ai abandonné. Je l'ai laissé tout seul.
Madame, il faut y aller maintenant. Vous reviendrez demain.
Comme si demain allait tout changer. Et on revient le lendemain. Et les jours d'après. Et Frédéric vit toujours grâce à ces monstrueuses machines. Sans personne pour lui donner un biberon. On lui a placé une sonde directement dans l'estomac. Et lui, il se débat. Il arrache sa sonde. L'infirmière la lui remet. Mais enfin, arrêtez ça! Alors un jour, je prends l'initiative de lui donner moi-même les biberons. Et tous les jours, il boit un peu plus. Un peu mieux. Un mois plus tard.
Bien. Vous allez pouvoir rentrer chez vous avec Frédéric. Mais il va falloir nous le ramener régulièrement, hein, pour des visites de contrôle. Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sera l'avenir de notre fils?
Oh, c'est beaucoup trop tôt, là. Hein. Son électroencéphalogramme est perturbé. On l'a placé sous garde énale. Il aura probablement un retard dans les acquisitions motrices, mais il récupérera, vous verrez.
On est sur le point de partir. Et là, dans le couloir, on croise un infirmier qui pousse un appareil avec un tout petit bout de chou à l'intérieur.
Oui, c'est un petit garçon qui est né prématurément à 7 mois de grossesse. Il vient tout juste d'être opéré d'une tumeur au cerveau.
Je reste tétanisé. Est-ce qu'ils ont pensé à la vie qui attend ce gamin? À l'enfer que vont vivre ses parents? Eux aussi, ils ont signé une autorisation d'opérer? Ou alors ils ont donné leur accord pour des raisons religieuses? Je veux pas savoir. Je fais l'autruche. Je vais pas gâcher ce jour merveilleux où Frédéric est enfin avec nous. Notre retour à la maison ressemble à celui de tous les parents du monde. Il tète, il dort. Sauf que Frédéric peine à prendre ses biberons. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est une vie presque normale. J'ai dit presque. Parce que quand on se promène, les gens me disent « Oh, il est beau votre bébé !» Mais moi, je ne me suis pas remise de cette naissance. C'est pas le baby blues, hein, non? C'est quelque chose de diffus, de lourd, de tenace, comme une intuition du chaos à venir. De temps en temps, quand Frédéric dort dans sa chambre, je m'installe dans le salon et... j'essaye de prendre du recul. C'est ma punition. Je me suis marié trop tôt. Ils avaient raison, ceux qui disaient « Tu vas pas te marier à 23 ans. Tu viens à peine de sortir de tes livres, de tes études. Cet homme n'est pas fait pour toi. 14 ans de plus que toi. Et puis... » Je me reprends. Absurdité sort de ce corps, ou plutôt de cet esprit. Et je me mets à acheter des tonnes de livres sur l'évolution d'un nourrisson et sur les étapes de l'acquisition. Les causes de certains retards, ce qui peut être récupéré, ce qui ne se récupérera jamais. Et après je regarde mon fils, les réflexes qu'il a, ce qu'il devrait ne plus avoir, et là... ma gorge se noue. J'en parle quand on va à l'hôpital.
Il y a eu un laps de temps pendant lequel il a manqué d'oxygène, ok? J'ai lu que ça pouvait causer des dégâts irréversibles. Vrai ou faux?
Ne lisez pas les livres, madame. Ils ne vont vous apporter aucune aide.
Oui, mais moi j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme.